Et nous lirons au verset premier. Premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset premier. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Et dans les versets qui suivent, jusqu'au verset 7, nous avons les noms de ces hommes. Au verset 3, ou plutôt, pardon, au verset 4, il est fait mention de Shishmaéja, vaillant parmi les 30 et chef des 30. Au verset précédent, au verset 3, il est question d'Akiézer, qui était chef. Et il y a toute cette liste d'hommes que l'Écriture nous présente comme des vaillants. Avant que nous méditions ce texte, j'aimerais que nous prions encore le Seigneur pour qu'il nous accorde le secours de son Esprit. Gardez ce chapitre ouvert pour souligner dans quelques minutes quelques points importants. Je pense que nous sommes des hommes qui connaissent la parole de Dieu et nous savons qu'avec ce chapitre 12 du premier livre des Chroniques, nous sommes dans une période douloureuse de la vie de David. Il a reçu l'onction de la part du prophète Samuel pour régner à la place de Saül. Saül est encore en place comme roi, il va y être encore pour un bon bout de temps, mais David a déjà reçu l'onction comme futur roi. David est l'homme selon le cœur de Dieu qui va accomplir toute les volontés du Seigneur, alors que Saül est rejeté. Je voudrais souligner au passage qu'il est bien question des volontés de Dieu. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. L'Écriture fait souvent allusion à la volonté de Dieu, mais ici il est question des volontés de Dieu. Pour moi, la volonté de Dieu, c'est comme un fleuve. Et à un moment donné, le fleuve se divise en une multitude de bras, un peu comme le Rhône, quand il arrive au bout dans le delta, il se divise en une multitude de bras. La volonté de Dieu, c'est comme un fleuve, et à un moment donné, cette volonté part dans toutes sortes de directions. Et on peut parler alors des volontés de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour nous, il y a la volonté de Dieu pour moi en tant que membre de l'Église, en tant qu'homme dans l'Église. Mais il y a la volonté de Dieu en tant que mari dans mon foyer. Il y a la volonté de Dieu en tant qu'homme dans la société. Comment est-ce que je me comporte avec les autres ? Il y a la volonté de Dieu en tant qu'ouvrier ou patron, quand on est patron. Il y a la volonté de Dieu comme témoin au milieu de cette génération. Ça nous amène à réfléchir à beaucoup de choses. Dans quel domaine pratique de ma vie Dieu désire des choses précises pour moi ? C'est une multitude de choses. Ce sont les volontés de Dieu. Et ce qu'il y avait de magnifique chez David, c'est que le Seigneur a trouvé déjà dans ce petit berger dans les champs un garçon qui avait un cœur disposé à accomplir toutes les volontés de Dieu. Il y a la volonté de Dieu pour le présent, puis il y a ce que Dieu prépare pour moi dans 3 mois si Jésus n'est pas revenu. Ce sera quelque chose d'autre ou de plus important ou dans une autre direction. Ce sont les volontés de Dieu. Je peux apparemment être fidèle à la volonté de Dieu comme membre d'Église, dans les rassemblements de l'Église, et ne pas être fidèle à la volonté de Dieu dans mon foyer. Je peux apparemment être fidèle comme homme dans l'Église lors de mes contacts fraternels, être aussi un bon mari, et ne pas être fidèle dans mes rapports sociaux avec les gens inconvertis. La volonté de Dieu, ce n'est pas comme l'achat d'une voiture. On va choisir les options. Seigneur, je suis chrétien, je suis un homme dans l'Église, mais en ce qui concerne ta volonté, je vais faire des options. Je veux bien accomplir ta volonté dans tel ou tel domaine, mais pas dans celui-là. Le Seigneur attend que nous ayons un cœur comme David, que Dieu puisse dire, je l'ai trouvé, cet homme ou ce jeune homme, avec un cœur bien disposé, et je vois en lui quelqu'un qui est prêt à accomplir mes volontés. C'est quelque chose de très important. David a aussi opéré une énorme délivrance en faveur d'Israël en triomphant du géant Goliath. Personne n'osait y aller, ni parmi les hommes du rang, ni Jonathan, ni Saül. Il a fallu que ce petit jeune homme, David, ayant reçu l'onction de l'Esprit, relève le défi et aille abattre le géant Goliath. Alors il y a eu tout ça de magnifique. Mais malgré ça, vous le savez, David a dû s'enfuir de sa maison une certaine nuit avec l'aide de Michal, la fille de Saül, pour échapper au roi. Et à partir de ce moment-là, il ne cessera toute la vie de Saül d'être victime de la haine de cet homme, de sa jalousie et de son désir farouche de l'éliminer et de le tuer. Et le chapitre que nous venons de lire s'inscrit dans cette période où David fuit devant Saül pour échapper à sa haine et à son désir de le tuer. Et vous vous souviendrez que dans cette période, David va chercher appui ici et là. Il va finir par commettre des erreurs d'ailleurs. Mais il cherche absolument à fuir et dans sa fuite, il cherche des points d'appui. Alors il va d'abord chez Samuel, ça c'est bien, prophète de Dieu. Ensuite, il va fuir chez Achimélec, le sacrificateur, et il va mentir, il va raconter des histoires. Ça va coûter la mort de tous les sacrificateurs, 80. Ensuite, il va se rendre chez Achish, roi de Gath. Donc on sent que ça va de moins en moins bien. Et ensuite, il ira se réfugier chez le roi de Mahon. Pour arriver finalement, solitaire, à la fameuse caverne d'Adullam, dans laquelle il va composer le psaume 142. Et ayant passé lui-même par une profonde détresse, abandonné de tous, parce que lorsque David arrive à la caverne d'Adullam, il est seul, David trouve en son Dieu les ressources nécessaires pour tenir. Et il va devenir, lui, l'homme rejeté, abandonné de tous, un centre d'attraction pour la maison de son père et pour tout malheureux. et des gens vont commencer à se rassembler autour de lui. La Bible dit des gens dans la détresse, des gens qui avaient des dettes, des gens qui étaient mécontents ou qui avaient l'amertume dans l'âme. Et David va commencer à se constituer une petite assemblée de 400 membres avec des gens qui étaient dans ces conditions-là. Et il nous fait penser à Jésus qui a commencé à rassembler autour de lui les gens qui étaient dans la détresse, qui avaient des dettes, et quelle dette énorme que celle du péché, qui étaient mécontents, qui avaient de l'amertume dans l'âme, mais qui ont entendu le Seigneur Jésus dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que le mot « adulam » veut dire « repos ». Et David apparaît là comme un type de Jésus-Christ. J'en viens à ce texte que nous avons lu dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 12. On ne va pas lire tout ce chapitre pour gagner du temps, mais tout ce chapitre, je vais simplement vous lire quelques versets, nous montre au fur et à mesure une succession de groupes d'hommes divers qui se sont joints à David. Au fur et à mesure, les hommes arrivent pour se joindre à David. Et nous remarquons dans ce chapitre que là encore, après la caverne d'Adullam, David devient un centre de rassemblement. J'ai lu à la fin du verset premier, il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent secours. Au verset 8, parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse. Au verset 16, il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. Au verset 19, des hommes de Manassé se joignirent à David. Au verset 20, il est question de son retour à Tsiklag. Voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui. Et au verset 22, de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il eût un grand camp comme un camp de Dieu. J'aimerais que nous comprenions l'enseignement apporté par le Saint-Esprit dans ce chapitre. Nous allons parler de Jésus. Nous ne sommes pas encore dans le temps du règne glorieux de notre Seigneur Jésus. David est un type de Christ ici. David est le futur roi. Il a reçu l'onction de la part de Dieu pour être roi, mais il ne règne pas encore. Pour l'instant, bien que futur roi, il est poursuivi, rejeté, haï, persécuté. Et présentement, je dis que Jésus est le roi rejeté, méprisé, méconnu. Nous savons bien qu'il va régner. L'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, « Il faut qu'il règne ». Jésus nous a enseigné à prier dans le Notre Père en disant « Que ton règne vienne ». Jésus règnera. Ça, c'est une certitude pour chacun de nous. Mais pour l'instant, il est le roi rejeté. Dans la période la douloureuse de David, moi, j'admire ces hommes-là. J'admire ces hommes-là. Quelle foi! Quel renoncement! Quelle consécration! Il y a un roi en place, mais eux sont persuadés par la parole de Dieu, par la foi dans le Seigneur, qu'en fin de compte, c'est David qui régnera. Et au lieu de rester attaché à Saül, on trouve chez ces hommes une foi formidable qui se traduit par un engagement complet, ils rejoignent David dans ce temps de rejet. Ils le rejoignent dans ce temps de mépris, ils le rejoignent dans ce temps de haine, ils le rejoignent dans ce temps de persécution. Ce sont des hommes qui ne se disent pas « on va choisir le confort, on va rester près de Saül et on y va au coup par coup, on verra bien ». Non, leur engagement est total dès le départ. C'est David qui règnera, eh bien on rejoint David. Et quel que soit l'inconfort, quelles que soient les difficultés qui vont être engendrées par ce choix, quelles que soient les souffrances, quels que soient les temps difficiles, c'est notre position que de rejoindre David dans cette période-là. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que Jonathan, c'est un garçon qui a fait des compromis. Oh, c'était l'ami intime de David. Il l'aimait comme son âme. Ça ne suffit pas. Si tu aimes Jésus comme ton âme, il faut que ça se traduise d'une façon concrète. Alors Jonathan n'arrête pas de déclarer cet amour pur, profond qu'il a dans son cœur pour son ami. Jonathan sait que David règnera. Un jour, il le lui dit, « Je sais que tu règneras, et à ce moment-là, j'occuperai une place importante dans ton royaume. » Convaincu de ça, à un moment, Jonathan se dépouille de son vêtement de dignitaire, il le remet à David, il lui donne son épée, son arc, sa ceinture, il se dépouille pour le futur roi. C'est formidable tout ça. Alors il va falloir que tu m'expliques, Jonathan, pourquoi tu fais tout ça et que tu restes avec Saül. Parce que c'est ton père? Mais ce n'est pas un argument. Comment ça se fait que tu ne prends pas position complètement? Il y a des hommes qui ne sont pas aussi haut élevés que toi dans le royaume et qui, eux, ont fait le choix. Jonathan, pourquoi tu ne fais pas ce choix-là? Alors il sait les choses. Il croit les choses. Mais son engagement n'est pas à la mesure de sa connaissance et de sa foi. Il reste dans la compagnie de son père, le roi rejeté, et il sait que son père est rejeté. Et vous ne trouverez jamais Jonathan à une place importante dans le royaume de David. Avant que David ne règne, Jonathan sera tué sur la montagne de Gilboa avec son père. Il y a des mauvais choix que nous payons très cher en tant qu'hommes dans l'œuvre de Dieu. Il y a des engagements qui ne sont pas des engagements complets. Nous n'allons pas jusqu'au bout de ce que le Seigneur attend de nous. Par confort, terrestre, humain, sentimental, matériel parfois. Oh, il y a des convictions dans nos cœurs. Il y a la foi. Il y a de l'amour pour le Seigneur. Mais il nous dit dans sa parole, mais n'aime pas en parole seulement, mais aime en action. Et avec vérité. On se dit de la tournure de certaines vies chrétiennes, mais comment ça se fait? Il aimait tellement le Seigneur, c'est vrai. Il y avait une telle foi dans son cœur, c'est vrai. Il avait tellement une connaissance biblique des choses, c'est vrai. Mais regarde bien sa vie. L'engagement n'était pas à la mesure de tout ça. Il y avait une faille quelque part. Le Seigneur Jésus a dit un jour à ses disciples, Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Il fallait, selon ce que Jésus dit ici, être capable de comprendre, de croire que Jésus un jour régnerait, s'attacher à lui, même si présentement on ne voyait rien d'un roi, pour qu'un jour nous puissions partager avec lui le royaume. Avant le trône, il y avait les épreuves. Et il ne faut pas s'attacher au Seigneur Jésus quand ce sera le temps du royaume, ce sera trop tard. Il faut s'attacher à lui en tant qu'homme dans l'Église, dans les moments difficiles, alors que notre roi, pour l'instant, est rejeté, méprisé et méconnu. Alors je dis que la foi de ces hommes dans les promesses faites à David pour son règne sont remarquables. Parce que à ce moment-là, vous regardez David, tous les signes extérieurs, tous les signes visibles sont contraires à un roi. Il est abandonné, il est lâché par tous, il est méprisé, il est haï par Saül, on le persécute avec le désir de le tuer. La parole de Dieu nous dit qu'en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé à Jésus qui ne lui soit soumis. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute, « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » C'est vrai, on a l'impression que le diable mène le bal pour l'instant. Dieu a soumis toute chose à Jésus. Mais on ne voit pas encore que toute chose lui soit soumise, parce que ce n'est pas encore le temps du règne. Et le verset juste après, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. » Avez-vous remarqué qu'il y a deux regards? Il y a le regard humain. Nous ne voyons pas encore maintenant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Et puis il y a le regard spirituel, le regard de la foi. Les deux ne sont pas contradictoires, ils vont ensemble. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Tout sur la terre nous montre que les choses ne lui sont pas encore soumises. Mais dans la foi, nous savons qu'elles lui sont soumises. Et un jour, il règnera. Il faut donc que nous ayons à la fois un regard humain sur les choses, mais aussi un regard spirituel. Et chez ces hommes dont nous allons parler, parce que c'est une réunion d'hommes cet après-midi, il y avait les deux regards. Le regard humain, c'était de se dire celui auquel on était en train de se rattacher, celui avec lequel pour l'instant on forme une église, c'est un homme qui semble en voir de toutes sortes. Il n'a rien à roi, il a toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, mais il a reçu l'onction. Mais il y a eu les promesses de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Un jour, ce sera notre roi. Alors le mieux que nous avons à faire, c'est de le rejoindre et de former avec lui un grand camp. Eh bien, Dieu cherche des hommes de cette trempe-là. Il cherche des hommes et des jeunes gens de cette trempe-là. Qui vont dire dans leur cœur, Jésus ne règne pas encore. C'est vrai qu'on a l'impression sur la terre que les choses vont de mal en pis et que Jésus semble bien étranger à tout cela. Ça, c'est le regard humain. Mais le regard de la foi, c'est qu'il va régner un jour. Ça, c'est certain, Dieu l'a promis, il règnera. Et nous voulons maintenant nous attacher à lui, nous consacrer à lui, afin qu'un jour nous régnions avec lui. Si nous persévérons, dit Paul dans l'une de ses lettres, nous régnerons aussi avec lui. Alors j'aimerais vous amener à considérer avec moi quelques instants certaines caractéristiques glorieuses de ces hommes qui ont rejoint, enfin une partie, on ne va pas parler de tous, il faudrait 4 réunions. Donc on n'en fera qu'une. Mais déjà à la fin du verset 1, à propos de ces hommes, il est dit « Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre et juste avant, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. » Littéralement, lorsqu'il était encore retenu loin de la face de Saül. Dans le verset 20, dans le verset 1 du chapitre 12, il est dit « Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag. » On n'est plus à la caverne d'Adullam, on est à Tsiklag, une ville qui avait été donnée à David par Achish, roi de Gath. Et le mot Tsiklag veut dire « écoulement », qui coule de la fontaine. Ça, c'est très intéressant. J'ai l'impression d'entendre Jésus qui, le dernier jour, le grand jour de la fête, s'est tenu debout devant les foules et a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son être intérieur, comme dit l'Écriture. » Et il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ceux qui se sont rassemblés auprès de Jésus à ce moment-là l'ont retrouvé dans une espèce de Tsiklag spirituel. Jésus promettait un écoulement, quelque chose qui coulerait de la fontaine de Dieu, la vie de l'Esprit, la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Et j'espère que nous sommes ces hommes-là. Il faisait partie des vaillants hommes. Et je suis venu vous rencontrer cet après-midi avec cette première pensée. Dieu attend de toi, mon frère, et Dieu attend de moi que nous soyons des hommes vaillants. Un roi qui ne règne pas encore et qui a besoin autour de lui de gens qui vont lui prêter secours n'a pas besoin de mauviettes. Il n'a pas besoin de tièdes. Il n'a pas besoin de lâches. Il a besoin d'hommes vaillants autour de lui. Et c'est ce que le Seigneur attend dans nos églises. Des hommes vaillants, ou comme le disent certaines autres versions, des hommes forts. Paul écrit au jeune Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul termine sa première lettre aux Corinthiens, enfin c'est le dernier chapitre, en disant « Fortifiez-vous, soyez des hommes. » Et puis, dans sa lettre aux Éphésiens, au reste, frères, fortifiez-vous, fortifiez-vous par la force toute-puissante de Dieu. Fortifiez-vous par la force toute-puissante de Dieu. Et quelques chapitres avant, dans la même lettre aux Éphésiens, il dit qu'il fléchit les genoux devant le Père et il prie pour que Dieu leur donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et puis un petit peu plus loin, il prie pour que les Éphésiens soient fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Des hommes forts, des hommes forts. Il est dit de ces hommes vaillants qu'ils prêtèrent secours à David pendant la guerre. Il faut de la vaillance parce que c'est la guerre. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une autoroute bien goudronnée avec des pétales de rose de chaque côté de la route. La vie chrétienne, c'est une arène. Nous avons à lutter contre le lion rugissant. Nous avons un adversaire terrible. Nous sommes, et vous le savez comme moi, dans un temps de guerre sainte. Et c'est pourquoi Jésus désire autour de lui des hommes forts, des hommes vaillants, prêtant secours pendant la guerre. Si je reprends les textes que je vous ai cités tout à l'heure, où il nous est demandé d'être forts, j'ai remarqué que dans les lignes qui suivent ces versets, c'est la guerre. Ça, c'est très intéressant. Quand Paul dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ », un verset après, il lui dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » C'est la guerre. Timothée, c'est la guerre. Et parce que c'est la guerre, je te demande de te fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Quand Paul dit aux Éphésiens, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, deux versets plus loin, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. C'est-à-dire, notre combat n'est pas contre des choses humaines, charnelles, ordinaires de la vie. Le combat se situe à un autre niveau. Nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est la guerre. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Si Jésus pouvait soulever le voile, nous permettant de voir ce qui se passe dans les sphères spirituelles mauvaises contre nous, nous en serions effrayés. La vie chrétienne, ce n'est pas de la bricole, mes frères. C'est la guerre contre les armées de l'enfer. Et je crois que plus nous approchons du retour de Jésus, plus le diable va faire chauffer les turbines de l'enfer. Il est descendu vers la terre, animé d'une grande colère, parce qu'il lui reste peu de temps. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Et le diable a dans le collimateur les pasteurs, les couples pastoraux, les responsables d'église. Il a dans le collimateur les assemblées, parce qu'il désire les démolir les unes après les autres. L'objectif est très clair. Un jour, Jésus a soulevé le voile sur un homme qui pensait pouvoir aller avec Jésus en prison, à la mort, partout. Simon, je vais te dire quelque chose que tu ignores. C'est que le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Toi, tu n'en sais rien. Tu mènes ta petite vie avec tes illusions, j'irai avec toi à la mort, etc. Dans la prochaine réunion de prière où ça va chauffer, tu vas dormir. Et tu parles d'aller en prison et à la mort avec moi. Moi, je vais te dire qu'il y a quelque chose que tu ignores et je ne te reproche pas de l'ignorer, mais c'est une réalité, c'est que le diable vous a réclamé pour vous cribler. Moi, je vais vous dire ceci. Vous en ferez ce que vous voudrez, vous ne me réinviterez jamais, ça m'est égal. Mais je vais vous dire ceci. Si nos assemblées ne se ressaisissent pas plus qu'elles ne le font, je ne leur donne pas cher dans le temps qui vient. Ça va souffler tellement fort que ceux qui ne vont pas être enracinés vont être emportés. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Beaucoup de chrétiens vivent la vie chrétienne. Ça va comme je te pousse. On s'attache au Seigneur s'il bénit. On s'attache au Seigneur s'il guérit. On attache au Seigneur s'il secourt. On s'attache au Seigneur s'il console, mais à l'heure où je vous parle, il y a des gens, des frères, des sœurs dans le monde qui n'ont plus rien. Ils sont dépouillés de tout et ils restent fidèles à Jésus jusqu'au bout. Parce que ce sont des vaillants qui ont compris qu'ils restent attachés au roi et restent près du roi, coûte que coûte. Il y a 3 ou 4 ans en arrière, l'un de nos frères en Afghanistan a été surpris en train d'évangéliser. On l'a chopé, on a accroché sa langue et on a tiré le frère, accroché par la langue derrière un camion, jusqu'à ce qu'il meure. Je faisais une mission à Montpellier il y a 15 jours. Le frère Gagou de Montpellier m'a emmené, je n'étais jamais allé, à la tour de Constance. Quand vous arrivez dans cette salle où ces jeunes filles protestantes n'ont pas renié leur foi, mais ont tenu jusqu'au bout, et que vous arrivez devant cette pierre, où avec leurs ongles, au fil des années, elles ont gravé le verbe « résister », moi, c'est allé jusqu'aux larmes quand je me suis trouvé devant cette pierre-là. Marie Durand avait 20 ans. Imaginez une fille de 20 ans. Elle en est ressortie 38 ans plus tard. Parce qu'elle n'a pas voulu céder pour Jésus-Christ. Et nous, parfois pour des petites bricoles, on boude, on est jaloux, on murmure, on calomnie. Mais moi, je vous dis, mes frères, il faut arrêter ça. L'heure n'est plus à tout ça. L'heure est à avoir le regard de la foi et à se dire, il va régner et il attend des hommes vaillants. des hommes vaillants. On a parlé du tsunami, non pas le dernier, mais l'autre d'avant en Indonésie. Mais savez-vous ce qui s'est passé quelques heures avant? Parce que ça, on n'en parle pas. C'est qu'on a chopé les nôtres, des missionnaires. On les a mis à mort. On les a coupés en morceaux. Et on a jeté les membres à la mer. Et le lendemain, le tsunami est arrivé. Mais en attendant, eux, ils ont subi ça. Je pourrais vous parler de ce pasteur de Corée du Nord. 9 enfants. On l'a saisi. Et on lui a dit, si tu ne renies pas ta foi, on enterre tes enfants vivants sous tes yeux. Alors il n'a pas renié sa foi. Et on a enseveli vivant l'un de ses premiers enfants, qui, étant enseveli, a supplié son père, criant à son père, « Papa, ne renie pas ta foi !» Les 9 enfants y sont passés. Le père a assisté à ça. Et comme il n'a pas renié sa foi, lui aussi a fini par être enterré vivant. Je veux bien croire que pour aller jusque-là, il faut à ce moment-là une mesure de grâce particulière de la part de Dieu. Mais en attendant, on peut au moins se poser la question, « Seigneur, est-ce que je veux aller jusque-là ?» Le Seigneur ne te demande pas si tu peux, mais si tu es prêt à payer le prix coûte que coûte. Il y en a qui ont payé très cher leur attachement à Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu te fais baptiser, tu as le droit à quoi? À une salle pleine? Aux honneurs de rendre ton témoignage? À une ambiance chrétienne? L'église va se réjouir, l'église va chanter des cantiques, tu auras peut-être même le solo d'un frère ou d'une sœur, tu auras peut-être même un bon repas en famille dans la joie après, formidable. Eux, quand ils se convertissaient et qu'ils disaient oui à Jésus-Christ, c'était prendre le risque d'être mangé par les lions dans les arènes de Rome ou d'être mis sur une croix. Il y a eu des milliers de chrétiens crucifiés. On a mis des chrétiens sur des croix, on a allumé les croix pour illuminer les jardins de l'empereur à Rome. La vaillance. Le Seigneur sait par quel chemin va passer son Église. Et il y a un appel de l'Esprit à être fort. Non pas à vivre une vie, petite vie chrétienne, à nous attacher à Jésus pour ce qu'il donne, mais à nous attacher à lui et à l'aimer pour ce qu'il est. Et s'il ferme un jour les robinets pour nous tester, nous puissions dire, Seigneur, tu peux fermer les robinets, je resterai quand même attaché à toi. Des hommes forts et vaillants qui lui prêtèrent le secours pendant la guerre. Verset 2, je vais m'attarder sur ce verset, puis on aura fini, mais on va s'y attarder quand même un petit peu. Écoutez bien, c'était des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Quand j'ai relu ce texte, j'ai souri. Parce que l'Écriture me dit que c'était des archers. Bon. Mais après, elle ajoute « tirant des flèches avec leur arc ». Ben oui, on a compris, Seigneur. Hein. Si c'était des archers, ce n'est pas la peine d'ajouter la suite. Un archer, c'est un homme qui tire des flèches avec son arc. Et là, le Saint-Esprit m'a appris quelque chose. D'abord, souligner au passage que, n'en doutez pas, hein, ils atteignaient leur but, ces gars-là. Hein. Il valait mieux pas se trouver dans la ligne de mire de la flèche. Hein. Ils atteignaient le but. Et le Seigneur attend ça de nous. Paul disait, je cours vers le but. Il faut savoir où nous allons, dans quelle direction, et pourquoi je vis, et qu'est-ce que Jésus attend de moi. Mais ce que le Saint-Esprit m'a amené à comprendre, c'est ceci. À quoi sert un archer qui n'a pas d'arc? Parce que si l'Écriture dit que c'était des archers tirant des flèches avec leur arc, c'est que c'était des archers qui avaient un arc. Est-ce qu'un archer qui n'a pas d'arc, c'est encore un archer? me suis posé une autre question. À quoi sert un archer qui a un arc s'il n'a pas de flèche? Et puis je me suis posé une troisième question. À quoi sert un archer qui a un arc, qui a des flèches et qui ne tire pas? Parce que la Bible ne parle pas pour ne rien dire. Elle dit, c'était des archers tirant des flèches avec leur arc. Vous savez, il faut tout lire dans la Bible comme c'est écrit. Parce que si Dieu me dit les choses avec précision, c'est qu'il a des raisons de me le dire. Et là, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le Saint-Esprit m'a dit, mais as-tu remarqué que ce n'étaient pas des archers de nom, mais des archers pratiquants? Ce n'étaient pas des archers de nom, c'était des archers pratiquants. Ils étaient archers parce qu'ils avaient un arc, des flèches, et ils s'en servaient. Et là, ça m'a amené dans ma réflexion à aller beaucoup plus loin. Nous avons l'arc de la prière. Nous avons le privilège d'être des intercesseurs, ayant l'arme efficace de la prière. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'un homme de prière dans l'Église s'y prie pas? C'est un homme de prière de nom. Paul a dit dans sa lettre à Timothée, je veux que les hommes prient. Ce n'est pas les êtres humains, c'est les hommes. Distingués des femmes, puisque juste avant, il vient de parler des femmes. Il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Qu'est-ce qu'un intercesseur s'il ne prie pas? C'est un intercesseur de nom. Qu'est-ce qu'un intercesseur s'il ne manie pas l'arme efficace de la prière? Alors mon frère, je te pose la question cet après-midi. Homme vaillant, près du roi, alors il faut que nous soyons des hommes de prière. Est-ce que nous tirons des flèches et suffisamment de flèches pour remporter de grandes victoires? Ou est-ce que nous sommes des archers pratiquants ou des archers de nom? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je voudrais vous lire ce texte dans le second livre des rois, ne le cherchez pas. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. Si tu as un arc et que tu ne le bandes pas, ça ne sert à rien. » Vous voyez qu'on est très près du texte des chroniques, là. « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Il faut que nos mains soient fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Alléluia. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Parce que quand on a un arc avec une flèche et l'arc bandé prêt à tirer, il faut savoir dans quelle direction on va. Il faut ouvrir la fenêtre. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Nous sommes dans l'esprit du 12e chapitre du premier livre des Chroniques. Et Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Il est obligé de tout dire. Prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Alors, Élisée prend l'arc, j'imagine là, prend une flèche, bande l'arc, pan. Bon, c'est pas très passionnant de tirer sur le plancher, hein, mais c'est ce que le prophète lui a dit de faire. Alors il en prend une deuxième, pan. Et bon, allez, encore une, quoi. Pan. Qui rend l'arc au roi, au prophète. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita. Il y a des saintes colères dans la Bible. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et il dit, « Mais fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras trois fois. » Et vous lisez la suite de l'histoire de ce roi, il n'a battu les Syriens que trois fois. Un archer, pratiquant, mais pas bouillant. Il y a des archers de nom qui ne sont pas pratiquants, puis il y a des archers pratiquants, mais qui ne sont pas bouillants et qui ne vont pas jusqu'au bout. Oh, j'ai assez prié. Mais non, tu as vu l'exaucement ? Alors si tu n'as pas vu l'exaucement, tu continues à prier. Regarde-le, Élie. Il a entendu un bruit et il sait que la pluie arrive. Alors, il fallait une bonne oreille, hein, parce que le ciel était désespérément pur. Mais lui, il a entendu, il dit au roi, « Allez, descends, parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Ah bon, la pluie ? Élisée sait que la pluie arrive. Alors il monte sur la montagne et il prie, la tête entre les genoux. Bon, j'ai pris un cours avec mon frère, donc il va falloir que je choisisse les mots pour vous dire ça. La tête entre les genoux. D'abord, vous dire ceci. La tête, c'est la réflexion, les genoux, c'est la prière. C'est bien que notre réflexion soit encadrée par la prière. Hein. Sinon, la tête va nous jouer des tours. Figurez-vous que j'ai essayé, dans mon bureau, tout seul, loin des yeux de ma femme, un jour, de mettre la tête entre les genoux. J'y suis pas arrivé. Faut drôlement souple, hein. Puis il ne faut pas être trop gitan, hein, parce qu'il y a quelque chose qui nous gêne, qui nous empêche de... J'y suis pas arrivé, il faut être souple. Il faut de la souplesse pour... Comprenez ce que je veux dire ? Il faut de la souplesse pour arriver à mettre la tête entre les genoux. Il ne faut pas être raide. Mais savez-vous que c'était la position des femmes juives qui mettaient au monde un bébé ? Donc là, il y a, comment vous le dire, un engendrement. Et Élisée est en train de mettre au monde, spirituellement, sur la montagne, dans la prière, une visitation de Dieu. Dieu a besoin d'hommes comme ça. Des vaillants, près du roi, qui ne vont pas vivre seulement pour eux, leur petite boutique, leur petit foyer, mais qui vont tirer le nombre de flèches suffisant sur la montagne avec Dieu pour engendrer des visitations glorieuses du Seigneur pour leur église, pour leur peuple, pour leur pays. Il prie. Puis il dit à son serviteur, « Allez, va voir. » Alors le candidat, il va voir. Ciel bleu, il retourne vers son ancien. Puis il dit, « Bah non, il n'y a rien. » Et qu'est-ce qu'il fait l'ancien ? Il dit, « Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu ?»« Ben non, non, lui il sait. » Alors il prie. Il se remet la tête entre les genoux. Et il prie, deuxième fois. Puis il dit à son candidat, retourne. Il remonte, il regarde l'horizon, désespérément bleu. Vous savez comment ça se passe ? Six fois. Mais Élisée, c'est l'homme qui va tirer le nombre de flèches jusqu'à la victoire. Au bout, il y a une visitation extraordinaire. Et moi, je vais vous le dire, dans mon ministère, je ne sais pas pour mes frères, dans mon ministère, j'ai aujourd'hui ce que je mérite. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Jamais. Jamais. C'est de notre côté. Et je vais vous dire une chose. Nos mouvements respectifs, Assemblée de Dieu, Vie et Lumière, nos églises, ont ce qu'ils méritent. Dieu désire bénir. Mais où sont les hommes vaillants ? Où sont les archers ? Ayant un arc, des flèches, qui vont tirer, mais qui vont tirer jusqu'à ce que ça vienne. Et la septième fois, alors qu'Élisée a la tête entre les genoux, à un moment donné, il se relève et il dit à son candidat, « Allez, va voir !» Et j'imagine la tête de l'autre quand il revient. Parce qu'il n'y a pas le ton, hein, il y a juste les mots. Il a dû dire à son ancien, « Ah oui, il y a quelque chose, hein, bah alors là, petit nuage. » Comme la paume de la main. Ah, j'imagine voir le gars. Élisée dit, hop, stop, c'est plus la peine de prier. Maintenant, la pluie arrive. Mais il fallait drôlement la foi pour voir dans ce petit nuage que ça y est, c'était arrivé. Et il a dit à Acab, dépêche-toi, descends parce que la pluie arrive. Alors, Acab a un char, lui il est en char, l'autre il se ceint les reins, il est à pied, il arrive en même temps. Là, la prière ça use pas, hein, ça fortifie. Il y a des gens qui pensent que la prière ça va nous fatiguer, ça va nous user. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Quand on passe du temps sur la montagne et qu'on tire le nombre de flèches suffisant, on est capable de courir devant un char et d'arriver avant. Gloire à Dieu. Je peux vous donner une petite expérience personnelle. Ça remonte à quelques années en arrière, c'est pas si vieux que ça, j'étais encore pasteur à Caen. Et puis un jour je lis dans l'Évangile, le Seigneur qui fait du ménage dans le temple, qui s'irrite, la colère de l'agneau prophétique, la colère de l'agneau avant l'heure, et qui dit à ceux qui trafiquent dans le temple, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et là encore, le Saint-Esprit m'a dit, as-tu remarqué ça? Ma maison sera appelée une maison de prière. Et le Saint-Esprit m'a dit, il n'est pas écrit, ma maison sera appelée une maison de chant. Avons-nous tort de chanter? Sûrement pas. La Bible nous exhorte à ça. Le Saint-Esprit m'a dit, il n'est pas écrit, ma maison sera appelée une maison d'enseignement. Avons-nous tort d'enseigner? Ben sûrement pas, c'est pas moi qui vais vous dire ça. La parole de Dieu a toute sa place dans l'Église. Mais cependant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Que deviennent nos chants sans la prière? Que deviennent nos prédications sans prière? Tu peux aller à l'école biblique deux fois deux mois, t'apprendras des choses, et alors? C'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Il y a quelque chose que l'école biblique ne te donnera jamais. Il y a quelque chose que ton ancien te donnera jamais. C'est la communion avec Dieu. C'est le contact avec le ciel. Ça, rien ni personne ne te donnera ça. Le Saint-Esprit m'a dit, maintenant examine le programme de ton église. Alors j'ai examiné le programme de mon église. Et le Saint-Esprit m'a dit, la prière, c'est ce que vous faites le moins. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Quand on examine le programme des réunions et les temps de prière, c'est la prière qui occupe le moins de place. Et j'ai partagé ça avec l'Église. J'ai dit stop, on arrête tout ça. On a fait fausse route depuis longtemps. Il va falloir que la prière redevienne le programme prioritaire de l'Église. Avant le chant, avant la prédication, faut qu'on revoie tout. Faut qu'on revoie tout. Et on a remis la prière comme priorité avec des jeûnes, avec des journées entières devant la face de Dieu, avec des semaines entières devant la face de Dieu, où nous étions du lundi au vendredi, tous les jours de 6h du matin à 8h le soir, sans discontinuer, l'église était ouverte toute la journée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les gens venaient en roulement, le matin avant de partir au travail, le midi pour jeûner, le soir pour jeûner, entre deux, les mémés qui avaient du temps, qui ne travaillaient pas, qui venaient prier, mais l'église était ouverte, il y a eu un roulement de prière toute la journée, tous les jours. Et on a vu des choses extraordinaires. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Dieu désire des hommes qui vont chercher la face de Dieu. Des archers possédant un arc et tirant des flèches. Moody était un évangéliste de renom. Il a amené au Seigneur des milliers de gens durant son ministère. Et l'évangéliste Moody avait un chanteur, Sankey, qui n'avait pas une voix extraordinaire, mais qui chantait des cantiques avant que Moody ne prêche. Et il n'était pas rare quand Sankey était en train de chanter des cantiques, mais des vrais cantiques, Avec Jésus dans le cantique, la croix, l'onction, le sang, la repentance, tout y était. Ce n'était pas certains trucs d'aujourd'hui où, quand vous enlevez Alléluia et Amen, il n'y a pas grand-chose. Hein. Sanque chantait. Et il n'avait pas fini de chanter le cantique que les gens se levaient, arrivaient devant l'estrade, tombaient à genoux et sanglotaient sur leurs péchés. Moody n'était pas encore arrivé pour prêcher. Son chanteur chantait un cantique. Les gens étaient déjà en larmes au pied de l'estrade, sanglotant sur leurs péchés. Où est le secret de ça? Un vaillant qui avait un arc, des flèches, et qui tirait le nombre de flèches jusqu'à la victoire pour chanter un cantique dans une réunion. Écoutez-moi bien. Pour chanter un cantique dans une réunion. Sanque passait 5 heures à genoux. Seulement, il n'avait pas fini de chanter que les gens étaient en larmes, à genoux devant, sanglotant sur leurs péchés. Il faut savoir ce que nous voulons, le but que nous recherchons, ma flèche, elle va dans quelle direction, pour qu'on dise « tu es un bel archer » ou pour dire « la flèche a atteint le but ». Pourquoi est-ce que nous faisons les choses? Quel est notre but? Et s'il est spirituel, est-ce que nous nous donnons les moyens d'atteindre le but? Je crois que c'est cette vaillance-là que le Seigneur désire pour chacun de nous. Alors il y a l'arc du témoignage. Nous sommes des témoins. Et c'est vrai que les versets de l'Écriture sont autant de flèches dans notre bouche comme des flèches dans le carquois d'un archer. Et c'est vrai qu'un verset cité à propos, c'est comme une flèche qui peut atteindre la conscience des gens, encourager le cœur. Et c'est la raison pour laquelle Paul écrivait aux Colossiens que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Mais une traduction, celle de Darby, dit que la parole du Christ habite en vous richement. Et puis il y a l'arc de la prédication. Une prédication donnée sous l'onction de l'Esprit, qui a été préparé devant le Seigneur, qui est vraiment le message de Dieu pour le peuple, est une flèche qui peut atteindre la conscience des gens. Mais moi, je vais vous le dire, hein, les gens ne s'y trompent pas. Vous savez, il faut tenir compte de ce que pense une église, de ce qu'elle ressent. L'église n'est pas faite que de gens tordus. Hein. Il y a des gens spirituels dans nos églises qui ne font pas de bruit, mais qui sentent les choses. Et quand un candidat est allé piquer sur Internet une belle prédication, puis qu'il en a mis plein la vue à son auditoire, moi je reconnais les prédications sur Internet. Alors c'est bien, ça tient debout, c'est élégant, il y a des points formidables qui en mettent plein la vue à l'auditoire. Plein la vue, mais pas plein le cœur. Dieu n'a pas besoin de perroquets, il a besoin de prédicateurs. Non pas des gens qui vont pomper quelque chose ailleurs et qui vont faire le perroquet. Il a besoin de gens qui vont apporter la parole qu'ils ont reçue d'en haut. Alors les gens sentent bien tout ça. Puis quand c'est une parole plus simple, comme ça, directe, mais qui va dans le cœur, les gens le ressentent. Les gens le ressentent. Comment prêtons-nous secours à notre roi pendant la guerre? Des hommes vaillants. Puis je termine avec ça. Il lançait des pierres de la main droite et de la main gauche. C'est ce qui a fait dire à quelqu'un que David était l'ancêtre des gitans. Vous le saviez, c'est David est votre ancêtre. Vous ne saviez pas? Il était beau. Il avait une belle voix. Il jouait de la musique. Il vivait dans les champs. Et il lançait des pierres. Ça, c'était pour sourire. Mais les hommes qui se retrouvent auprès de David sont des hommes qui lancent des pierres de la main droite et de la main gauche. Le but, c'était de blesser l'ennemi ou de le tuer. Ce n'était pas seulement des archers, c'était aussi des frondeurs. Mais réfléchissez à ces hommes. Nous, en principe, on est droitiers ou gauchers. Mais ces hommes étaient capables, eux, de lancer aussi bien les pierres de la main droite que de la main gauche. Il n'y avait pas de handicap quelconque, mais il y avait une habileté totale. L'apôtre Paul a écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, « Nous nous rendons recommandables comme serviteurs de Dieu par les armes offensives et défensives de la justice. » Mais littéralement, c'est « Nous nous rendons recommandables par les armes de justice de la main droite et de la main gauche. » Voilà ce que dit le texte original. Alors, main droite, main gauche, arme offensive, arme défensive. Bon, moi, je suis droitier. Je vais prendre le bouclier de la main gauche et l'épée de la main droite. Il y a une arme défensive. Je n'attaque pas avec un bouclier. Je me défends avec le bouclier. L'arme offensive, c'est l'épée à main droite. Mais j'ai les deux. Il y a l'arme offensive, il y a l'arme défensive, l'arme de la main droite, l'arme de la main gauche. Et c'est ce que Paul dit ici. En ce qui concerne ces frondeurs, ils étaient capables de lancer des pierres avec une précision incroyable, de la main droite ou de la main gauche, et je voudrais vous dire qu'il nous faut être aussi bons pour nous défendre que pour attaquer. S'il s'agit de défendre l'Évangile, il faut être super bon. S'il s'agit d'être offensif pour l'Évangile, il faut être bon. Et enfin, alors là, on prend le coup de grâce, ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Ah bon? Et on le retrouve chez David? Mais oui, quand vous lisez dans le premier livre de Samuel, vous apercevez que Saül est fils de Kis, un Benjamite. Donc sa famille, ce sont des Benjamites. Et il y avait une famille, il avait des frères. Et les frères, vous les retrouvez à Tsiklag, auprès de David, des traîtres? Mais non, mais non. Des hommes qui se sont dit, des hommes qui se sont dit. Les liens de la chair, c'est une chose. Mais il y a les liens de l'esprit. Au niveau du sang humain, on lui appartient, mais il est rejeté. Au niveau de la foi, nous lui appartenons à David. Et c'est le roi qui va régner. Alors entre eux, la famille et le roi à venir, Seigneur, j'ai fait mon choix. Même si ça me coûte, parce que ce sont les miens. Mais les miens ne veulent pas de toi. Alors je les aime, c'est sûr. Mais en ce qui concerne ma vie, il n'y a plus rien avec eux. Ma consécration, elle va pour toi. Sommes-nous vaillants quand nous sommes avec la famille à l'heure de la réunion? Sommes-nous vaillants quand nous sommes en train de manger et boire avec les nôtres? Alors que l'Église prie et jeûne, il y a des moments où il faut faire des choix. Ces hommes de Benjamin, frères de Saül, ont rompu pour s'attacher à David. Et dans le temps qui se prépare, le Seigneur a besoin de ces hommes-là dans son Église, de ces vaillants-là. Il y a du travail à faire dans ton cœur, il y a du travail à faire dans le mien. Il ne faut pas désespérer. Le Seigneur va nous prendre et il va nous tirer vers le haut. Le travail à faire en nous, ce n'est pas un problème. Le Seigneur va le faire. Le vrai problème, c'est de savoir si nous sommes prêts à nous laisser saisir, si nous le voulons. Seigneur, j'en ai assez du niveau où j'en suis, de cette petite vie routinière. Ça ne peut pas durer, il faut que ça change. Seigneur, je remets ma vie sur l'autel. Je replace ma vie dans une vraie consécration. Saisis-moi à nouveau et fais-moi grâce. Amen. On va prier le Seigneur.